Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Un accord a été trouvé sur la rémunération des médecins avec une hausse de 450 millions d'euros. Réaction syndicale en début de journal. C'est la fin de la trêve hivernale et les associations craignent un regain d'expulsion. L'association Droit au Logement appelait à manifester cet après-midi. Nous y étions. La Bosnie commémore aujourd'hui les 25 ans du massacre de Srebrenica. Reportage de notre envoyé spécial. Et nous irons à Hong Kong où le camp pro-démocratie organise des primaires en vue des élections de septembre, puis en Pologne à la veille de l'élection présidentielle. Enfin, ce pourrait être une conséquence du réchauffement climatique parmi tant d'autres. Les pins des Landes sont en souffrance. Vous l'entendrez en fin de journal. Un accord majoritaire a été trouvé sur la rémunération des médecins hospitaliers. Il devrait être signé lundi pour entériner notamment une hausse de 450 millions d'euros. Trois syndicats majoritaires ont approuvé ce projet d'accord du Ségur de la Santé. Pour Rachel Baucher, présidente du syndicat INPH, cet accord n'est qu'un début. Son syndicat demande une enveloppe bien plus importante. Si cet accord est un bon accord dans le sens où il n'y en avait pas eu depuis plus de 20 ans, il demande une suite. Rachel Baucher, jointe par Jean-François Fernandez.
Ce premier accord est une étape majeure, un pas décisif vers une revalorisation des salaires et des carrières, mais il n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'à la prochaine pandémie, si les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous de ces revalorisations intellectuelles et financières, si les pouvoirs publics ne sont pas à ces rendez-vous, ça sera plus difficile dans l'avenir. Je crois que l'hôpital public aujourd'hui est un enjeu non seulement stratégique, mais un enjeu politique majeur. Je dirais, n'attendons pas la prochaine pandémie, continuons après cette première étape, faisons en sorte que les étapes à suivre se font lors de, disons là, d'un prochain quinquennat. Mais je pense qu'il faut arriver à boucler le système dans les 3-5 ans qui viennent. Il ne faut pas qu'il se passe à nouveau 15 ans. C'est beaucoup trop long, ça nous fait perdre beaucoup de cerveau. Donc moi j'engage le gouvernement à poursuivre. D'ici la fin du quinquennat, on a deux chantiers majeurs sur le temps de travail et la revalorisation des gardes. Sur nos collègues hospitalo-universitaires, c'est majeur. Et faisons en sorte que le prochain quinquennat, les lois de financement concernant l'hôpital public, concernant l'investissement et concernant la revalorisation des acteurs, ça soit inscrit dans des lois de programmation pluriannuelles et non pas coincé dans une enveloppe en dame qui est beaucoup trop étriquée.
Et en revanche, la CGT Santé Action Sociale ne s'est pas encore décidée à signer. Les médecins urgentistes expriment une immense déception. Ils regrettent l'absence de revalorisation pour les gardes de nuit et le travail additionnel. Jean Castex demande à ses ministres d'aller sur le terrain pour entendre les demandes. C'était ce matin lors du premier séminaire du gouvernement autour du Premier ministre. Réunion qui a duré plus de 3 heures. Et par ailleurs, les effectifs des cabinets ministériels vont être renfloués. Les ministres et ministres délégués vont pouvoir gonfler leur équipe jusqu'à 15 personnes contre 10 aujourd'hui. Pour les secrétaires d'État, ce sera 12 personnes contre 5 actuellement. Louis Alliot ne sera pas président de l'agglomération de Perpignan. Après avoir raflé la mairie de la ville le 28 juin, l'élu Rassemblement National a perdu face au LR Robert Villa qui l'emporte au deuxième tour du scrutin. Louis Alliot qui par ailleurs a fait parler de lui hier lors de son premier conseil municipal durant lequel la majorité a voté l'augmentation de son indemnité de maire. Gérald Darmanin est à Bayonne aujourd'hui pour rendre hommage au chauffeur de bus roué de coups puis décédé après une violente agression à bord de son bus. Le ministre de l'Intérieur promet des mesures pour les chauffeurs de toute la France. Et par ailleurs, plusieurs dizaines de militantes féministes ont manifesté devant la mairie de Bayonne ce matin avant l'arrivée du ministre. Gérald Darmanin, on le rappelle, fraîchement nommé à l'intérieur et donc à la tête de la police, est visé par une enquête pour viol. Qui dit fin d'état d'urgence sanitaire dit aussi fin de la trêve hivernale qui avait été exceptionnellement repoussée. Les associations craignent de voir des centaines de personnes expulsées. Ils étaient plus d'une centaine cet après-midi, place du Palais-Royal à Paris, pour manifester à l'appel de l'association Droit au Logement. Lisa Tagui, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez sur place et vous avez rencontré des familles menacées d'expulsion.
Oui, et il y avait une bonne ambiance sur la place du Palais-Royal, bonne ambiance même si la situation est tendue. À ce rassemblement, j'ai rencontré les habitants du 18 rue du Croissant, dans le 2e arrondissement de Paris. 32 familles qui vivent dans un squat, faute d'être relogées. Et ces habitants ont reçu un avis d'expulsion sans délai. Gouraya a 37 ans, elle a 3 enfants et vit avec eux dans ce squat.
Il y a des personnes célibataires dans l'immeuble, il y a des mamans célibataires aussi. Et puis voilà, on est tous prioritaires du coup. On a tous la priorité d'être relogés en urgence, mais c'est pas fait. on va être expulsé, mais on ne se laissera pas faire, ça c'est sûr. En tout cas, nous les mamans, on est déterminés, on ne lâchera pas. Il est hors de question qu'on retourne à la rue. Nos enfants en ont marre, ils souffrent de la situation, ils en ont marre quoi. Puis voilà quoi, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout.
Se retrouver à la rue, voilà ce que craignent des milliers de familles menacées d'expulsion en France. Et pour Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement, c'est un problème qui est systémique.
Aujourd'hui, on a de plus en plus d'expulsions locatives parce que les loyers sont de plus en plus chers et parce que les locataires ont vu leurs revenus baisser, tout simplement parce que c'est ceux qui restent locataires, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. À partir de là, on a une paupérisation des locataires. La production de logements sociaux est en baisse, est en berne, les APL ont été baissés. Et puis on a cette épidémie aussi qui a fait chuter les ressources de beaucoup de ménages, et les salariés les plus précaires, les moins bien protégés, évidemment, et qui vont se retrouver devant le tribunal à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, et qui risquent d'être expulsés l'année prochaine.
Des populations précaires et avec des profils variés, des sans-abri, mais aussi des familles monoparentales, des personnes retraitées. L'association Droit au Logement demande une année blanche, sans expulsion locative jusqu'à la prochaine trêve hivernale, mais aussi plus de logements sociaux.
Lina Tagu, merci. Un migrant soudanais est mort hier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, on l'apprend aujourd'hui. Il est tombé et s'est noyé dans le canal Saint-Denis, canal au bord duquel vivent plus de 800 migrants dans des tentes. Le 11 juillet 1995, 8000 hommes musulmans sont tués par les forces serbes de Bosnie. La Bosnie qui commémore donc les 25 ans du massacre de Srebrenica. Un épisode reconnu comme génocide par la justice internationale et le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La commémoration s'est pourtant tenue dans des circonstances très particulières et ce en raison de l'épidémie de Covid-19. Reportage sur place par notre envoyé spécial Laurent Rouy.
Sur l'immense espace du cimetière de Potocari, les groupes clairsemés semblent perdus au milieu des plus de 6000 stèles de pierre blanche. Ils sont à peu près 1500 à être venus. C'est très peu. Une surprise pour Fatima, une étudiante de Sarajevo.
Il y a vraiment moins de monde. C'est sûrement les conséquences de cette pandémie et de ce virus. L'année dernière, quand je suis venue pour la première fois, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde.
Chaque personne doit se laver les mains et passer sous une brume désinfectante. La majorité des présents portent le masque. Surtout, les frontières de la Bosnie sont fermées. Cette ambiance plus calme convient à Hussein, 11 ans à l'époque, encore vivant parce que trop jeune au moment de la séparation des hommes et des femmes par les soldats du général Mladic.
J'ai attendu 25 ans pour retrouver et enterrer ce cousin. J'ai enterré ici mon père en 2015 et un autre parent en 2003. Lors de la toute première cérémonie de commémoration.
Alors que 35 dirigeants internationaux ont exprimé par vidéo leur deuil face au massacre, le leader des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, continue de nier l'évidence. Il veut créer une commission vérité à Sabot pour réécrire les événements de 1995. Une insulte pour les Bosniaques.
Reportage de Laurent Rouy. À Hong Kong, le camp pro-démocratie organise des primaires pour la première fois. L'objectif, optimiser ses résultats aux élections législatives prévues en septembre et tenter de obtenir la majorité des sièges. Le ministre des Affaires constitutionnelles a estimé que ces élections pourraient violer la nouvelle loi draconienne de sécurité nationale. 250 points de vote étaient ouverts, aucun incident n'a été signalé. Le reportage de Laurence de Changy.
À Causeway Bay, c'est devant une gargote de nouilles thaïlandaises, connue pour être jaune, c'est-à-dire favorable au mouvement d'opposition, qu'une poignée d'électeurs fait la queue paisiblement pour voter en ligne une fois que leur identité a été vérifiée. Les avertissements des autorités estimant que cet exercice pourrait être en violation de la nouvelle loi de sécurité nationale n'ont pas découragé cet apprenti avocat, Cyrus Wong.
Quoi que l'on fasse maintenant, c'est contraire à la loi de sécurité nationale. Mais c'est eux qui ont créé cette loi et il faut bien faire quelque chose.
D'ailleurs, pour Amy Leung, bénévole dans ce point de vote, la répression à la manière chinoise a eu l'effet inverse que celui escompté.
Plus ils essaient de nous intimider, plus cela nous incite à nous exprimer. C'est l'impression que je récolte ici. Et hier soir, sur les réseaux sociaux, en direct, les gens avaient l'air très décidés à sortir pour voter aujourd'hui, précisément à cause de toute cette intimidation. Vous savez, ici à Hong Kong, on a été vraiment courageux en matière d'expression.
Courageux, les Hongkongais l'ont été, et ce sont à présent les plus courageux d'entre eux qui entendent continuer la lutte pour la démocratie.
Florence de Changy à Hong Kong. Au Mali, c'était le troisième rassemblement organisé en moins de deux mois par la coalition du mouvement du 5 juin. C'était aussi le plus violent violent avec un mort et 20 blessés. Une manifestation contre le président Keïta au pouvoir depuis 2013. Omar Ouaman a joint Michel Galli, spécialiste de la région et auteur de La guerre au Mali. On l'écoute.
Je dirais qu'il y a une violence croissante qui vise soit à faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, soit un dialogue politique ou au fond une prise de pouvoir du mouvement du 5 juin, la dissolution du Parlement, un gouvernement de transition proposé par l'imam Diko, la dissolution aussi ou le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle qu'ils accusent de collusion avec le pouvoir.
Et cet imam Diko, que l'on dit très influent, en tout cas il est populaire au sein de la jeunesse, est-il en position de force ?
Effectivement, il a l'appui de la jeunesse. Il se présente notamment comme un symbole de pureté, d'intégrité religieuse contre la corruption du pouvoir, ce qui est dans l'histoire aussi une solution alternative au régime corrompu.
La France soutient le président Keïta, réélu démocratiquement en 2018 pour un second mandat de 5 ans. Il faut le rappeler, la France doit-elle afficher davantage ce soutien ?
Je pense que le gouvernement français fait profil bas pour le moment pour ne pas être la cible comme ça a été dans les manifestations récentes d'attaques politiques. Hein. Donc, s'il y a un soutien implicite, sans doute un soutien ouvert et même militaire, à mon avis, c'est impensable.
Michel Galli au téléphone avec Omar Ouaman. Et le Premier ministre malien s'est exprimé il y a quelques minutes. Il promet rapidement un gouvernement d'ouverture. Qui remportera la présidentielle demain en Pologne ? Impossible pour l'instant de distinguer un favori entre le chef de l'État sortant, l'ultra-conservateur Andrzej Duda, et le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages. L'entre-deux-tours a été marqué par la présence d'acteurs un peu imprévus. Les médias, télévisions et journaux sont devenus bien malgré eux des thèmes de la campagne, Thomas Giraudeau.
La scène était surréaliste. Lundi soir, le président sortant, Andrzej Duda, est en direct sur la télévision publique, la TVP. En simultané, Rafał Trzaskowski est lui sur la télévision privée TVN. Duda a refusé d'aller sur TVN, favorable à Trzaskowski. Lui a boycotté la TVP, canal de propagande du pouvoir. Situation pathétique mais logique pour Alex Cherbiak, professeur de sciences politiques à l'université du Sussex. Durant cet entre-deux-tours, selon lui, chacun des candidats a voulu jouer la sécurité, ne prendre aucun risque, et donc ils ont refusé de participer à un débat présidentiel en face-à-face, dans un format dans lequel ils n'étaient pas certains de bien s'en sortir, qu'ils ne contrôlaient pas. Après TVN, le président Duda s'attaque au puissant tabloïd Fact, qui sort une affaire compromettante contre lui. Le journal est possédé par un groupe de presse germano-suisse, alors Duda en fait un argument de campagne en dénonçant une ingérence de Berlin. Alex Cherbiak explique que les votants qu'Andrzej Duda vise durant sa campagne ne sont pas choqués par de tels propos anti-germaniques. Au contraire, ils aiment l'idée qu'un homme se dresse pour défendre les intérêts polonais face à l'Allemagne. Les électeurs qui, eux, sont choqués n'allaient de toute façon pas voter pour lui, mais pour Rafał Trzaskowski. Pour l'emporter, Andrzej Duda doit mobiliser son électorat le plus attaché à l'identité polonaise. Les personnes âgées, elles se sont moins déplacées que la moyenne au premier tour.
Thomas Giraudeau. Ils sont un véritable symbole du sud-ouest de la France. Ce sont les pins. Sont-ils menacés par le réchauffement climatique ? Dans la forêt des Landes, en tout cas près des plages, ils ont tendance à s'éteindre de plus en plus vite. Un groupe de chercheurs a voulu savoir pourquoi et a mené l'enquête. Laurent Augusto, chercheur à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, fait partie de ces enquêteurs et il observe ce phénomène depuis de nombreuses années.
Ça a commencé dans les années 1990. Et comme ça augmentait en intensité, voire même ça s'étendait au niveau géographique, bien les forestiers se posaient de plus en plus de questions. Et donc on a mis en place conjointement un programme de recherche de plusieurs années. Et c'est ça qui a permis d'identifier le problème et même de proposer des solutions.
Alors parmi les suspects que vous avez pu rendre coupables, il y a notamment le réchauffement climatique.
Ce qu'on a mis en évidence, c'est que dans le secteur où il y avait ces échecs de régénération de la forêt, les étés sont un petit peu plus secs que dans les autres parties de la forêt dunaire. Et il se trouve que une grande partie de la disparition des plantules que du coup nous on suivait de manière fine, donc on revenait régulièrement, on observait qu'il y avait une très forte mortalité en été et on voyait bien que l'exposition au soleil et le manque d'eau tuaient ces plantules. Dans ce même secteur, avec les mêmes méthodes, il y a plus de 30 ans, les jeunes pins, dans les mêmes conditions, survivaient. Donc, toutes les conditions étant égales par ailleurs, on peut supposer que le climat s'est suffisamment réchauffé pour que ça devienne trop compliqué certaines années pour les plantules qui, comme on a coupé tous les arbres avant, passent tout l'été en plein soleil. Et donc, il faut être costaud pour survivre dans ces conditions.
Laurent Augusto, joint par Ilan Malka. Et que les amoureux des pins se rassurent, ils ne sont pas encore condamnés à mort. Dans leur étude, les chercheurs estiment que des techniques de reforestation pourraient leur permettre de mieux résister à l'aridité estivale. L'aridité estivale, justement, elle arrive. Ce soir, les températures sont douces partout sur le pays. Demain, même chose, beau soleil partout. C'est toujours un peu frais au lever du jour, avec de 8 à 13 degrés au nord, de 13 à 17 au sud et de 19 à 22 degrés autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto et Jérémy Coffin à la technique.